Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Le livre que je vous propose aujourd'hui a été pour moi, dirais-je, un challenge, un défi. Le thème par lui-même. Néophyte en la matière, l'Antiquité, ça n'est pas forcément ma période de prédilection en matière d'histoire, mais j'ai voulu m'y plonger parce que justement, voulant apprendre, voulant comprendre. Et puis, je m'étais un petit peu renseignée sur l'auteur dont nous allons parler, nous allons en faire sa connaissance dans quelques instants. Le livre, c'est de Caracalla à Théodoric. Vous allez me dire, oh là là, où est-ce qu'elle nous embarque ce matin? Eh bien, vous allez voir, dans une histoire passionnante, résolument contemporaine et qui finalement nous amène de 212 au 5e siècle à une histoire, à des vérités qui aujourd'hui semblent bien contemporaines et qui finalement est tout à fait gré à notre histoire. Donc c'est la fin d'un empire et pour nous parler de cette fin d'empire, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Claire Sautinel. Bonjour Claire Sautinel.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour votre livre La fin d'un empire, donc de Caracalla à Théodoric de 212 au 5e siècle aux éditions Belin. Alors tout d'abord, on va parler de vous. Qui est Claire Sautinel?
Claire Sautinel est professeure d'histoire à l'université de Paris-Est-Créteil,
oui.
À la périphérie de Paris.
Oui.
Je suis historienne depuis mes études supérieures et je travaille sur cette longue période qu'on appelle l'Antiquité tardive.
Oui.
Je l'ai fait j'ai fini ma thèse à l'École française de Rome, ce qui est une grande chance et un grand privilège. J'ai enseigné aussi dans les universités de Bordeaux et de Tours.
Mmh.
J'ai circulé aussi un peu en Europe. J'ai eu la chance de faire quelques séjours en Angleterre. Et j'aime beaucoup travailler avec des collègues qui appartiennent à des écoles historiographiques différentes.
Mmh.
Et bien que ça fasse maintenant plus de 40 ans que je travaille sur l'Antiquité tardive, j'en découvre chaque jour et ça m'intéresse toujours autant. Donc j'ai été ravie d'avoir l'occasion d'écrire pour Belin un volume dans cette magnifique collection des mondes anciens dirigée par Joël Cornette.
Mmh, tout à fait. Alors l'ouvrage est sublime, hein. Moi, je n'hésite pas à le dire, ne serait-ce que la couverture. C'est 650 pages magnifiquement illustrées également. Je tiens à dire pour ceux qui n'ont pas trop de muscles que le livre est lourd. Donc on ne l'emmène pas forcément dans le cartable pour lire dans le train, c'est plutôt un livre qu'on laisse sur son bureau ou dans la maison que l'on lit au fur et à mesure du temps. Après, si les auditrices, auditeurs veulent l'emmener dans le métro, dans le train ou ailleurs, bien sûr, ça n'est pas un problème. Alors, ça demandait, je suppose, je vais dire le mot, un boulot, je suppose, considérable. Alors, je me suis documentée. Alors, l'Antiquité tardive, j'ai cru comprendre que les historiens à la matière et à cette époque ne sont pas forcément tous d'accord dans, je dirais, l'appellation de l'époque et de la chose.
Oui, alors en fait, la période qui est présentée dans le livre, c'est une période qui, depuis la Renaissance au moins, est considérée comme une période de décadence. Vous allez trouver en librairie des tas d'ouvrages sur la chute de Rome,
oui,
sur la fin des civilisations, sur l'effondrement du monde antique.
Mm-hmm.
Et c'est une période qui a été très longtemps pensée et ignorée, d'ailleurs,
mm-hmm,
et pas inscrite dans les programmes scolaires ou universitaires,
oui,
comme une période de d'effondrement, une période triste et catastrophique.
Mmh.
Et politiquement parlant, cette période, parce qu'elle n'est pas, quand je dis qu'elle est mal connue, il y a bien sûr des historiens qui ont travaillé dessus, elle n'est pas ignorée, d'autant qu'il y a beaucoup de sources anciennes qui en parlent, elle est souvent connue comme étant le bas-empire, du point de vue de l'histoire politique romaine, parce que c'est effectivement la fin de l'Empire romain. Mais depuis le milieu du XXe siècle, c'est une période qu'on a commencé à étudier pour ce qu'elle était elle-même, et non pas à travers un prisme d'abord politique,
mm-hmm,
mais en s'intéressant à l'évolution de la culture, de la société, des productions artistiques, et pour essayer de se dégager de ce préjugé décadentiste, l'historien français Henri Irénée Marrou, qui est le premier à avoir ouvert cette voie dans les années 70, a utilisé une expression allemande, utilisée en Allemagne depuis longtemps, qui est celle de antiquité tardive. L'idée n'étant tardif, c'est mieux que d'être bas, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, c'était changer de mot pour changer de vision sur une période. Mm-hmm. Alors, quand on travaille sur l'antiquité tardive, on ne met pas au premier plan l'histoire militaire ou politique de l'Empire. Donc, les gens qui travaillent sur l'antiquité tardive, c'est beaucoup des gens qui travaillent sur la religion, sur la littérature, sur des éléments d'histoire plus culturels. Donc les deux termes, bas-empire et antiquité tardive, peuvent coexister. Ils ne sont pas complètement neutres idéologiquement. Les gens qui préfèrent bas-empire sont souvent des gens qui veulent insister sur le fait que quand même l'événement majeur, c'est la fin de cette structure politique étonnante qu'est l'Empire romain.
Oui.
Tandis que ceux qui préfèrent parler d'antiquité tardive, c'est des gens parfois accusés par les autres de relativisme culturel, mais qui s'intéressent beaucoup plus à l'histoire culturelle. Et en France, on connaît très bien cet immense historien irlandais qui travaille aux États-Unis depuis très longtemps, Peter Brown, qui a popularisé dans le monde anglophone ce terme d'antiquité tardive et qui a créé, pour ainsi dire, une vraie école historiographique.
Alors dans votre ouvrage, je le disais, nous allons de 212 au 5e siècle, de Caracalla à Théodoric. Alors Caracalla, dans l'esprit populaire, ça peut parler à certains, en tout cas moi ça me parlait sans pouvoir définir le moment dans le temps, le situer dans le temps. Et en fait, on débute avec cet empereur qui donne la citoyenneté à tous les habitants. Une forme de reconnaissance humaniste, dirais-je. Et on va s'apercevoir aussi, il y a une forme de tentacule que va devenir l'Empire romain par la suite.
Alors oui, effectivement, le livre qui est dans la collection des mondes anciens publié chez Delin, c'est le troisième volume consacré à Rome. Il y en a un qui est déjà paru il y a un an et demi, bientôt deux ans, qui s'appelle Rome, la cité universelle, et qui va d'Auguste à 212. Et il y a un troisième volume qui paraîtra d'ici un an à peu près, qui sera sur les origines de Rome. Donc il y a on a travaillé ensemble avec les auteurs de ces différents ouvrages pour caler un peu la chronologie. Et on a décidé de ne pas faire commencer le livre avec un début de règne, mais avec cet édit de Caracalla, qui effectivement donne la citoyenneté universelle à tous les habitants libres de l'Empire romain. Alors vous dites, c'est une démarche humaniste. C'est sans doute pas, c'est même sûrement pas ce qui a guidé Caracalla.
J'imagine. Disons que c'est ma vision des choses, c'est ma vision,
sûr,
c'est mon regard.
Elle est tout à fait légitime et ça a un sens en termes de réflexion humaniste. Mais ce qui a motivé ce prince très autoritaire, fils de Septime Sévère, c'est sans doute des raisons religieuses. En tout cas, elles sont évoquées dans le fragment de papyrus qui nous conserve cet édit. C'est une situation précieuse pour l'historien de l'Antiquité, dans laquelle il dit que par cet édit, les dieux de Rome auront d'autant plus de personnes pour les vénérer. Donc il y a cette idée un peu idéologique et religieuse d'augmenter les hommes, car c'est plus les hommes qui intéressent l'empereur que les femmes, qui, devenant des citoyens romains, deviennent des dévots des divinités de Rome, à commencer par Rome elle-même et par la figure de l'empereur. Des historiens antiques lui prêtent aussi des motivations fiscales, augmenter le nombre de personnes payant les impôts des citoyens romains. Mais c'est vrai, là où vous avez tout à fait raison, c'est que le résultat, qui n'est peut-être pas voulu par l'empereur, le résultat c'est quand même que tous les habitants libres de l'Empire, je précise parce qu'il y a toujours des masses d'esclaves dans l'Empire romain à cette époque, mais tous les habitants libres ont le même statut juridique. Et ça change profondément la nature politique de ce qu'est l'Empire romain. c'est plus un empire avec un centre dominant et des périphéries dominées, c'est un empire de citoyens, c'est un empire dans lequel tous les habitants ont le même statut. Et ça, ça change beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est une césure qui n'est pas, qui ne saute pas aux yeux des historiens qui vivent à l'époque de Caracalla ou dans les décennies qui suivent, mais c'est une césure qui a beaucoup de sens pour nous modernes, pour qui les questions d'universalité, les questions de, d'égalité ont de l'importance.
Alors, on s'aperçoit aussi que c'est une véritable construction, en tout cas, c'est la lecture que j'en fais, aussi bien administrativement parlant, culturellement parlant, économiquement et socialement également. Cette Rome byzantine sur Constantinople, c'est une véritable, comment dirais-je, entité presque mondiale pour le monde que l'on connaît à l'époque, en tout cas.
Tout à fait, vous avez vraiment raison. Vous avez vraiment raison. Rome, après une phase de conquête qui correspond à la fin de la République romaine et au début de l'Empire, est vraiment une sorte d'empire mondial, en effet, puisque tout le monde méditerranéen, une bonne partie de l'Europe du Nord, l'Afrique du Nord jusqu'aux marges sahariennes, appartiennent au même espace, politique. Et c'est tellement, le terme d'empire mondialisé est tellement vrai que les Romains eux-mêmes considèrent que leur empire se confond avec l'ensemble du monde habité, l'œcuménée, d'où le nom œcuménique. Et ils considèrent que ce qui est à l'extérieur des frontières est négligeable et ne mérite pas leur intérêt, même s'ils le connaissent, même s'ils savent que ça existe. Mais dans leur représentation mentale et politique, Rome égale le monde. Et d'ailleurs, un des signes des empereurs romains, c'est la sphère qui tienne et qui représente l'universalité de leur autorité et de leur pouvoir. Mais ce n'est pas quelque chose qui naît avec Caracalla. Oui. C'est quelque chose qui est abouti au moment où Caracalla règne. Et l'octroi de la citoyenneté universelle, c'est un peu la sanction de cet énorme travail de mondialisation, d'unification culturelle et politique. Unification culturelle et politique parce qu'il y a deux langues véhiculaires dans tout l'Empire romain. Imaginez un monde qui va de la Bretagne, c'est-à-dire du nord de l'Angleterre actuelle, du sud de l'Écosse jusqu'au Sahara, qui va de l'océan Atlantique jusqu'à l'Irak actuel, et une partie de l'Irak actuel, et dans lequel il y a deux langues, le latin et le grec, et dans lequel les élites occidentales connaissent toutes le grec, et donc tout le monde se comprend, tout le monde peut voyager, tout le monde peut échanger. C'est une sacrée réalisation politique et culturelle qui n'a pas d'équivalent avant l'époque contemporaine.
Tout à fait, oui. Eh bien, écoutez, nous allons nous poser quelques instants pour laisser souffler nos auditrices et auditeurs et nous allons faire une petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Thank you. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous avec Claire Sautinel pour son ouvrage La fin d'un empire de Caracalla à Théodoric de 112 au 5e siècle aux éditions Belin pour Délivrez-vous pour ces deux ailes. Alors, c'est une époque aussi où le christianisme, dirais-je, va s'imposer, entre guillemets, puisque ce sont les hommes hein, qui vont imposer, où le christianisme va prendre toute sa position et sa possession du monde et des hommes, dirais-je.
C'est une époque cruciale pour l'histoire du christianisme, en effet. Le christianisme naît évidemment avant 212.
Oui, bien sûr.
Le christianisme émerge comme un mouvement à la fois religieux, spirituel, philosophique, à la fin du 1er siècle de notre ère. Il existe évidemment, la date marquante, c'est la mort de Jésus.
La mort de Jésus.
Ce mouvement s'organise et se voit, on est déjà dans la deuxième moitié du 1er siècle.
Oui.
Et il se diffuse avec succès, mais modestement, dans le courant du deuxième siècle de notre ère.
Mmh.
La période qui est prise en compte par ce livre est une période qui voit un changement très important. Je n'emploie pas exactement les mêmes mots que vous pour en parler, parce que au début de la période, le christianisme, ce sont des groupes très minoritaires, mais présents dans de très nombreuses villes de l'Empire. Pas partout du tout.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont issus des différents évangiles, par exemple, ces groupes?
Non, enfin, je veux dire, si vous voulez dire qu'il y a des groupes qui viennent de l'évangile de Marc et des groupes qui viennent de l'évangile de Luc, c'est pas du tout le cas.
D'accord.
Les origines du christianisme, c'est un sujet en soi absolument passionnant.
Oui.
Mais qui n'est pas vraiment cadré ici.
Tout à fait.
C'est ce qu'on pourrait appeler le mouvement de Jésus.
Oui.
Alors très vite, les chrétiens, dans ces périodes anciennes, échangent entre eux des textes.
Mm-hmm.
Donc, les communautés chrétiennes ont souvent plusieurs évangiles, mais ils ont aussi des lettres des apôtres, ils ont aussi des lettres d'évêques des tout premiers siècles.
Mm-hmm.
Et ce qui est très intéressant avec le développement du christianisme, c'est l'intensité des échanges et la volonté de la part de tout petits groupes souvent très éloignés géographiquement les uns des autres, de communiquer pour vérifier qu'ils participent à un même mouvement.
Mm-hmm.
Et ces vérifications suscitent souvent beaucoup de disputes, d'incompréhension. Donc l'histoire du christianisme, c'est aussi une histoire de discussion, de débat. C'est comme ça que naissent les hérésies.
Tout à fait.
Mais on n'a pas des communautés qui se seraient développées séparées les unes des autres, qui ont chacune son évangile, et découvrant très tardivement que d'autres communautés ont d'autres évangiles. Ça ne marche pas exactement comme ça.
Mm-hmm.
Et au début du 3e siècle, là où nous trouvons avec le livre, ces groupes chrétiens, ils ont déjà l'habitude, ils ont déjà mis en œuvre des pratiques de communication en échangeant des lettres quand un nouvel évêque est élu, en convoquant les évêques d'une même région pour discuter d'affaires à la fois pratiques et théologiques aussi régulièrement que possible, en échangeant des textes et en constituant des bibliothèques, en réfléchissant à ce qu'est un texte sacré et ce qui ne l'est pas. Ça, ce travail est déjà accompli avant le 3e siècle.
Mmh.
Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais à petite échelle. On est encore dans des minorités très numériquement, on ne connaît pas le nombre, comme toujours pour l'Antiquité, mais je veux dire, si ça représente 5% de la population de l'Empire, c'est une vision déjà très optimiste. Et avant la fin de la période, dès la fin du 5e siècle, ce mouvement minoritaire est pas encore en voie d'organisation, est devenu la religion officielle.
Oui.
Des empereurs romains, qui est même la seule religion officielle des empereurs romains, aux dépens des cultes traditionnels, et a commencé très largement à s'imposer dans les différentes cités de l'Empire. Et à l'extrême fin de la période, de traiter dans ce livre, qui est une fin politique et pas religieuse, mais donc la fin de mon livre, c'est 497, le christianisme est le seul horizon religieux structuré dans tous les anciens territoires de l'Empire romain. Mmh. Donc il y a une évolution massive et très importante. Et quand on connaît l'importance du christianisme pour ce qu'est l'Europe au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et dans l'Orient byzantin, on voit bien à quel point c'est important. Il sait pas, tout le monde n'est pas chrétien. Le christianisme n'est pas tout, il y a d'autres, mais c'est la seule religion officielle et structurée à la fin de la période. Et c'est une religion qui est très nouvelle par rapport à ce qu'il y avait dans l'Antiquité, donc ça accompagne des changements qui sont très profonds.
Alors justement, j'allais dire effectivement cette religion, dirais-je, nouvelle, en tout cas intégrée dans la société ou dans l'Empire romain, contribue, c'est ce que j'ai compris, ressenti en tout cas, justement à l'élaboration de cette nouvelle société contemporaine, mondialiste, hein, puisqu'on dit que c'est un empire romain, on le disait tout à l'heure, un empire mondial, et en même temps à une autre ouverture, à un autre regard sur le monde, avec une analyse des choses peut-être plus poussée, plus ouverte. Et peut-être encore plus structuré culturellement, justement, où il y a plus de comment dirais-je, de construction intellectuelle du monde.
Alors, oui. Peut-être, c'est possible, c'est d'aborder courageusement des questions d'une grande complexité, parce que comme je le disais, le caractère mondial du monde romain, c'est antérieur au christianisme.
Oui, tout à fait.
Se développe avant le christianisme.
On est d'accord.
Les auteurs chrétiens du IVe siècle, comme Eusèbe de Césarée, qui a inventé l'histoire ecclésiastique et qui a écrit la première histoire ecclésiastique complète, il considère que la création de l'Empire romain, c'est une réalité providentielle, parce que la création de l'Empire romain a créer des infrastructures qui ont permis au christianisme de se diffuser.
Oui.
Donc lui-même, il ne voit pas dans le christianisme une mondialisation, il voit dans l'Empire romain une mondialisation qui permet au christianisme né de façon localisée en Palestine de se diffuser dans tout l'Empire.
Et, un support, une forme de support et de squelette qui permet l'intégration d'idées.
C'est ce que pense Joseph de Césarée dans une vision très providentialiste. Qui n'est pas, enfin, je veux dire, qui est une analyse évidemment qui dépend d'un point de vue très particulier, celui de l'historien du IVe siècle, de l'époque de Constantin, qui veut écrire ce qu'il voit comme étant le triomphe du christianisme, alors qu'au début du IVe siècle, il n'y a encore que quelques étapes qui ont été réalisées pour une christianisation en profondeur.
Oui.
De la société gréco-romaine. Alors c'est vrai que le christianisme rajoute une sorte de couche culturelle à cette unité déjà réalisée, et une des caractéristiques de la culture chrétienne telle qu'elle se développe et telle qu'elle se diffuse au 4e, 5e siècle, c'est qu'elle imprègne la société peut-être en profondeur différemment de la culture gréco-romaine. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les élites politiques qui sont concernées, mais aussi l'ensemble des gens que les évêques chrétiens souhaitent baptiser, former au christianisme, auprès desquels ils souhaitent réaliser un enseignement et une forme d'évangélisation, tout simplement, utiliser le mot qu'eux-mêmes emploient. Alors, est-ce que ça donne une idée plus ou moins spirituelle, plus ou moins complexe? Ça dépend un petit peu du point de vue. Ce qu'il y a de certain, il me semble, en tant qu'historienne, ce qu'on peut dire, c'est que les éléments communs de culture qui sont diffusés par le christianisme et qui se nourrissent beaucoup de culture gréco-romaine, ce sont ceux qui sont restés au-delà de la fin de l'Empire romain et qui sont restés dans les sociétés médiévales. Donc ce sont ceux que nous connaissons encore aujourd'hui. Il y a un lien culturel entre cette époque et nous qui est qui reste fort, étant donné la présence dans le paysage de nos villes et de nos campagnes, notre culture, de toute cette culture chrétienne qui, pendant toute l'époque médiévale et moderne, c'est énormément nourri de ce qui était produit dans cette époque. Mais Et ça, de ce point de vue, et ça, ça contribue beaucoup à la modernité de cette époque. En fait, on a des échos forts lorsqu'on étudie.
Alors moi, c'est les choses qui me fascinent dans cet entretien et dans votre livre et dans vos propos, c'est que on emploie des mots on n'oserait pas. Enfin, moi, avant, je n'aurais pas forcément osé employer le mot mondialisation. Vous voyez, ça me perturbe et ça me voilà. J'essaye de retranscrire la chose à cette époque et par rapport à nous. Et finalement, moi, j'ai envie de dire que le monde est un éternel recommencement ou une continuité entre le passé, le présent et l'avenir. Il y a ça. Et puis. Finalement, ce monde romain, j'ai l'impression que cet empire aujourd'hui a fait d'autres empires, d'autres bébés, et que finalement les époques, elles peuvent être différentes par les hommes, par les us, par les coutumes, par les traditions, mais que l'humain, la terre, la façon de penser, les religions, la culture, la façon dont on administre les choses et le monde ne divergent pas forcément d'une époque à une autre. Simplement, ce sont les hommes qui en font les différences, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours une similitude au travers du temps et des âges. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois. Alors, je pense que c'est très juste que les questions sont toujours les mêmes. Les questions de comment maintenir la paix, comment faire face aux épidémies, comment éviter la guerre, comment... Alors, mais il y a aussi des choses nouvelles qui apparaissent. Je pense qu'être historien, c'est aussi apprécier les différences qui existent. Parmi les différences qui existent, on voit apparaître chez les empereurs du 4e et du 5e siècle, je pense en particulier aux empereurs de la dynastie qu'on appelle les Valentiniens, un très grand souci de justice sociale, de souci des plus faibles dans la société, qu'on voit dans les lois romaines, qui est quelque chose qui est très peu apparent dans les lois antérieures. Alors, vous direz, donc c'est toujours la même chose. Oui, c'est toujours la même chose, sauf que dans la période envisagée, c'est pas quelque chose que l'on voit chez les empereurs du début du 3e siècle, mais c'est quelque chose qu'on voit chez les empereurs du 4e siècle.
D'où une évolution. Voilà, une évolution.
Et des changements et parfois des régressions
aussi.
Parfois aussi des évolutions négatives, comme le développement de certaines formes d'intolérance.
Complètement.
Parce que les conditions changent. Et puis, parmi les conditions qui changent, mais c'est vrai que l'histoire et doit faire place, peut-être plus qu'à l'époque où moi je faisais mes études, à l'anthropologie, à une réflexion sur ce qui fait les comportements humains et pas seulement se complaire à observer, à compter les batailles et à savoir, à faire de l'histoire purement événementielle. Et c'est bien ce que l'histoire fait depuis plus d'un siècle. Dans une période, ce qui est très sensible dans la période traitée par ce livre, c'est qu'on est dans une période où il y a des changements perceptibles à l'échelle d'une ou deux générations.
Oui.
Et que les contemporains qui ont vécu cette période ont été sensibles à ces changements. Parce que la déconstruction de quelque chose d'aussi massif que l'Empire romain, parce que ce livre, c'est aussi la période où l'Empire romain se délite,
tout à fait, oui.
C'est quelque chose que les contemporains perçoivent et ça crée chez eux une inquiétude qui aussi nous touche aujourd'hui, nous qui vivons aussi dans un monde en pleine mutation.
En tout cas, c'est un livre fort intéressant qui amène à des réflexions et à des questions, parce que tout en parlant avec vous, il y a des choses qui me sont venues à l'esprit pour en parler avec vous. De Caracalla à Théodoride, de 212 au 5e siècle, à la fin d'un empire, aux éditions Belin. C'était un vrai plaisir de parler avec vous, Claire Sautinelle. J'espère que ce livre marche et continuera de marcher. Et puis, moi, je trouve que c'est une bible en soi sur cette période fort intéressante et peut-être méconnu, bien évidemment, des néophytes, mais vous êtes là justement pour nous éclairer. Voilà.
Je vous remercie.
Merci infiniment. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un autre ouvrage.
À une prochaine fois.
Merci. Au revoir.
Au revoir.